Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Il faut une réduction du train de vie des institutions publiques de la RDC afin d'apporter plus de soutien aux forces de défense de la République. C'est ce que recommande le chef de l'État aux membres du gouvernement. Félix-Antoine Tshisekedi a donné cette instruction lors du Conseil des ministres hier à Kinshasa. Ituri, lancement officiel hier du programme de désarmement démobilisation PDDRCS. Environ 1100 miliciens du groupe d'autodéfense Zaïre ont adhéré à ce processus. La cérémonie a eu lieu à Mabanga, environ 50 km de Bounia, dans le territoire de Djougou. Et puis, la guerre de l'Est, surtout dans la ville de Goma, impacte négativement les opérateurs économiques du Maniema. C'est ce qu'affirme le directeur provincial de la FEC Maniema. D'après Wassilo Pierre, les commerçants et la population de cette province sont asphyxiés. Il est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Le chef de l'État exige aux institutions publiques de l'État ainsi que leurs animateurs à une réduction de leur train de vie afin d'apporter plus de soutien aux forces de défense de la République. Il a insisté auprès des membres du gouvernement lors du Conseil des ministres d'hier vendredi que l'objectif est de dégager des économies qui permettront d'octroyer une prime exceptionnelle aux militaires, policiers et les patriotes volontaires Wazalendo engagés dans le combat dans l'Est de la RDC. Ainsi pourront-ils voir leur pouvoir d'achat et accès aux soins de santé améliorés. Le président de la République a par ailleurs souligné la nécessité de leur renforcement en équipement. On écoute à ce sujet le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, dans cet extrait proposé par Billy Van Lutumba.
Le président de la République a engagé le gouvernement et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures des mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coûts par palier et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie. Au-delà des efforts spontanés, le coupe devrait également porter sur les rémunérations des mandataires publics, des membres des cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et ceux des institutions d'appui à la démocratie. Par ailleurs, toutes les missions et évacuations sanitaires à l'étranger non essentielles doivent être suspendues. Il en est de même pour les subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics ainsi que d'autres acquisitions pour des institutions publiques judiciaires et assimilées. Doivent également être suspendues pour une durée de 12 mois les augmentations salariales, les corrections des grades et les mécanisations des agents publics de l'État autres que les militaires et policiers, sauf évidemment dérogations spéciales.
Entre-temps, au Congo central, le gouverneur de province appelle ses administrés à se mobiliser derrière les forces armées et le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi, dans son message, Grâce Nkwanga Bilolo, invite les fils et filles du Congo central à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect auprès des services de sécurité. Faisant suite à l'adresse du président de la République du 29 janvier, le gouverneur du Congo central invite aussi les jeunes de cette province à s'enrôler massivement dans l'armée nationale. On écoute le gouverneur du Congo central au micro de Nana Plurish Mambo.
Nous nous faisons l'obligation d'inviter toute la population du Congo central à observer ce qui suit. 1. Garder allumée la flamme du soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Demeurer vigilant et dénoncer tout mouvement suspect auprès des services de sécurité et de l'ordre ou des autorités politico-administratives le plus proche. 3. S'abstenir de poser tout acte de vandalisme ou de violence. 4. Encourager la jeunesse à faire preuve de patriotisme en s'enrôlant massivement dans l'armée. 5. Garder une pensée pieuse à l'endroit de nos concitoyens qui ont versé leur sang à l'occasion de cette agression rwandaise. Par ailleurs, nous réitérons notre message de compassion et de solidarité envers nos compatriotes de la partie est de notre pays, spécialement à ceux du Nord Kivu, meurtris par les affres de l'agression rwandaise. Ensemble, nous disons la patrie ou rien.
Pendant ce temps, sur le terrain des affrontements au Nord Kivu, 700 personnes ont été tuées et 2800 personnes blessées. Un pillage généralisé des entrepôts perpétré à Goma, c'est à la suite de l'incursion de l'armée rwandaise et des rebelles du M23 dans cette ville du Nord Kivu. Ceci ressort du point de presse du porte-parole du secrétaire général de l'ONU, tenu hier à New York. Selon un rapport d'évaluation de l'OMS que cite le porte-parole, plusieurs personnes reçoivent des soins dans des établissements de santé. D'autres détails avec vous, Billy Van Lutumba.
Ces chiffres devraient augmenter à mesure que de plus amples informations seront disponibles, souligne le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Sur le plan humanitaire, le rapport d'OCHA et d'autres humanitaires fait état de l'augmentation des personnes déplacées se trouvant dans les zones de Boulengo et Lushagal en périphérie de la ville de Goma. Si ici les services d'eau et de santé sont toujours opérationnels, malgré les conditions désastreuses, l'accès à l'eau potable reste coupé à Goma, obligeant les populations à se servir de l'eau non traitée du lac Kivu. Il y a donc crainte d'épidémie de maladies d'origine hydrique. Autre aspect des conditions de vie actuelles dans cette partie du pays, plus de 300 000 personnes décident de déplacer se retrouvent ailleurs. Là, il manque presque de tout. Pas d'abri, de nourriture, d'eau potable ni d'assistance médicale. L'urgence en assistance s'impose donc, renseigne le porte-parole. Lors de ce point de presse, la question des droits de l'homme a été mentionnée par le porte-parole parmi des inquiétudes. Se référant à la déclaration du haut-commissaire aux droits humains, il y a lieu d'être préoccupé par le fait que cette dernière escalade de la violence pourrait accroître le risque des violences sexuelles liées au conflit. Il est fait mention d'exécutions sommaires perpétrées par le M23. Dans les zones contrôlées par le groupe armé au sud Kivu, comme à Minova, le M23 a occupé des écoles et des hôpitaux, a expulsé des personnes déplacées des camps et a soumis la population civile à la conscription et au travail forcé.
Et pour les autorités congolaises, le dégât serait effroyable dans la ville de Goma. Parlant justement du bilan, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, parle des milliers de morts, tout en soulignant qu'il est encore difficile de dresser un bilan définitif. On l'écoute dans cet extrait proposé par Jacques-Yves Molima.
En ce qui concerne le nombre de morts que nous déplorons, vous allez comprendre qu'avec la volatilité du contexte, il a été très difficile de chiffrer cela. Nous sommes dans le regret de constater quand même que nous parlons, quand il s'agit des morts, de milliers de morts. Certes, l'accès à la presse, l'accès aussi aux autorités a été justement limité et mis à l'épreuve parce qu'on se retrouvait dans un contexte de combat actif dans beaucoup de zones et de combat dans un contexte urbain, ce qui a rendu le travail extrêmement difficile aussi aux humanitaires, aussi aux soldats de la paix, et donc qui veut dire que maintenant nous sommes peut-être dans un contexte qui va peut-être nous permettre de mieux constater le dégât quand même effroyable de cette attaque du Rwanda sur la République démocratique du Congo et sur les populations civiles congolaises et les casques bleus des Nations Unies et les soldats de la paix de la SADC.
Entre-temps, dans le territoire de Lubero, toujours au Nord Kivu, des coups de feu ont été entendus la nuit dernière dans la localité de Ngazi, une soixantaine de kilomètres de Beniville, à la limite avec le territoire de Lubero. À l'origine, des affrontements entre deux groupes armés rivaux. Prise de panique, la population s'est déplacée vers la localité voisine de Cantine. La tension et la psychose règnent ce samedi dans cette région où l'on craint la reprise des affrontements entre ces deux milices. Récit des faits avec Marc Marofimbo.
Des sources locales rapportent que tout est parti de l'attaque par un groupe armé non identifié d'une position des miliciens de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, IPLC, volontaire au désarmement. Il était alors 22h locales ce vendredi 31 janvier. Des tirs à l'armes lourdes et légères ont été entendus pendant plus de 2 heures, indiquent nos sources qui précisent que le camp des miliciens de l'IPLC d'Engazi a été réduit en cendres. Prise de panique, les populations des localités telles que Chelega, Katere, Kitara, Ndiapanda, Masiolo et Bambwe ont commencé à fuir leur milieu. Certains habitants ont pris la direction des cantines et d'autres se sont dirigés vers Kinshasa. Ce samedi matin, une psychose régnait toujours dans la région où la population craint les représailles de l'IPLC. Le bilan de cette attaque s'établit à un milicien de l'IPLC tué. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital général de référence de Mabalako ce samedi matin. La société civile et les autorités locales appellent la population au calme et demandent à l'armée de protéger la population. C'est la troisième attaque du genre dans la région en l'espace d'un mois après celle de Mandelia et Masoya, des localités situées à cheval entre les territoires de Beni et de Lubero. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Rendons-nous à Kalemi, dans le Tanganyika. Le réseau des femmes de médias du Tanganyika, REFEMET, s'active dans la lutte contre la prolifération des fake news sur les réseaux sociaux. Pour la coordonnatrice de cette ONG qui s'est confiée aujourd'hui à Radio Kapi, les réseaux sociaux sont devenus une source de désinformation par excellence. Les membres du REFEMET ont reçu une formation pour détecter les fausses informations et alerter à temps les utilisateurs des réseaux sociaux. Josaphat Marquis, coordonnateur du REFEMET, le dit au micro de Paulin Munanga.
Depuis un moment, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de messages qui viennent comme de fausses informations. Nous avons fait appel à CARE International qui est venu nous former sur le fact-checking, c'est-à-dire comment détecter une mauvaise information sur les réseaux sociaux. Maintenant, chacun peut avoir son téléphone. Avec son téléphone, il a un compte Facebook, Google, WhatsApp et consort. À travers son compte-là, s'il voit une publication de ses amis ou bien les publications que le réseau nous propose souvent, il peut directement activer les stratégies selon la formation. Et une fois qu'on intègre ces stratégies de vérification, automatiquement sur cette page-là, la page que la personne est en train de lire, on note faux. Faux, c'est en rouge d'ailleurs et en majuscule. Automatiquement, nous remarquons que cette information est une fake news. Alors, à ce moment-là, on fait la capture. C'est tout le monde qui s'est fait maintenant journaliste. Or, il y a des principes pour informer. On parle toujours du traitement de l'information. Vérifier les sources avant de présenter une information. Mais pour les réseaux sociaux, c'est on ramasse, on donne. On est des vecteurs des fausses informations. On partage même.
Direction l'Ituri, je vous l'ai dit dans les titres, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, PDDRCS, a lancé officiellement hier le processus de désarmement d'environ 1100 miliciens du groupe d'autodéfense Zaïre qui ont adhéré depuis 2 semaines à ce processus de paix. La cérémonie s'est déroulée dans la localité de Mabanga, environ 50 km de Bunia, territoire de Djougou. Ces ex-combattants ont reçu des cartes de démobilisation leur permettant de vaquer librement à leurs occupations en attendant l'appui du gouvernement pour leur réinsertion dans leurs communautés respectives. Isaac Remoyope, reportage.
Plus de 50 combattants de la force d'autodéfense Zaïre ont reçu des cartes de démobilisation à la première journée de ce processus qui va se poursuivre pendant environ 2 semaines à Mabanga. Environ 1200 anciens miliciens ont adhéré à ce programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, précise son bureau en Ituri. Ces démobilisés se disent lassés de la guerre et se sont engagés pour la promotion de la paix et du développement de leurs entités respectives. Ils ont exprimé leur joie de retrouver leur famille et de reprendre leurs anciennes activités, agriculture, élevage, exploitation de l'or en attendant leur réinsertion sociale. Le coordonnateur national du PDDRCS a rassuré ses ex-combattants de la détermination du gouvernement de les accompagner jusqu'à la fin du processus pour une paix durable dans cette province. Tanga Tita.
L'heure est venue de tourner la page de la violence et d'écrire ensemble un avenir de prospérité. Le gouvernement et ses partenaires sont à vos côtés. Je rends hommage à mes frères qui aujourd'hui ont fait le choix d'arrêter la violence et de choisir le chemin de la paix.
Signalons que tous les groupes armés en Ituri ont déjà adhéré à ce processus et attendaient son effectivité dans la province. Cependant, ils demandent au gouvernement d'assurer la sécurité de la population contre les menaces des forces étrangères dont les M23 et les ADF. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis, les jeunes de Lubumbashi sont appelés à améliorer les relations avec leurs élus pour le développement de leurs entités respectives. Ces notions leur ont été rappelées vendredi au cours d'une séance de sensibilisation organisée dans le cadre de la 2e phase du programme d'engagement civique de l'ambassade des États-Unis en RDC, programme organisé par l'Association pour les femmes et les enfants. Ont pris part à cette séance des jeunes ainsi que certains conseillers communaux de Lubumbashi, Kampemba et Annex. On écoute à ce sujet Aslan Mbala, coordonnateur de l'association dénommée Pour les femmes et les enfants. Il est au micro de Jean Gandou.
Cette 2e phase vise à outiller le jeune âgé de 18 à 35 ans sur l'éducation civique en vue de renforcement de leur engagement citoyen et leur participation pour améliorer les relations entre les autorités et particulièrement les élus avec le jeune pour améliorer la prise en charge des déshydratés de la population. Le programme est exécuté dans 15 villes du pays et à Lubumbashi, nous avons déjà mené 4 activités, dont une session sur les notions de base sur l'éducation civique où nous avons formé 40 jeunes et nous avons participé au lancement officiel le 23 janvier 2025 par Madame l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Madame Lucie Tamline, qui a lancé les programmes à partir de Kinshasa. Nous avons mené un échange avec 8 conseillers municipaux, avec 2 jeunes, ensemble avec le jeune, pour qu'ensemble on puisse définir des mécanismes qui peuvent améliorer la prise en charge des déshydratés de la population au niveau de leur municipalité. Comment on peut améliorer la relation entre le jeune et les autorités municipales. Nous avons mené une autre activité, une formation sur la citoyenneté et les valeurs démocratiques, une formation animée par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, présentée par son conseiller socioculturel et par Madame la chef de division de la jeunesse du Haut-Katanga.
Actualité internationale. Au moins 3 passagers russes figurent parmi les victimes de la collision entre un avion et un hélicoptère. Accident survenu cette semaine à Washington, au-dessus du fleuve Potomac. L'avion transportait 60 passagers et 4 membres d'équipage et 3 soldats s'y trouvaient à bord de l'hélicoptère de l'armée qui effectuait des exercices de routine. Les raisons de la collision n'ont pas encore été dévoilées. L'avion de ligne qui s'est écrasé avant son atterrissage venait de Wichita, dans le Kansas, un important championnat de patinage artistique s'y déroulait.
L'invité.
La guerre de l'Est, surtout dans la ville de Goma, impacte négativement les opérateurs économiques du Maniema. Dans une interview à Radio Kapi, le directeur provincial de la FEC Maniema fait savoir que les commerçants et la population de cette province sont asphyxiés. Waswalila Ntonge Pierre, notre invité, s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Waswalila Ntonge, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
À quel niveau la situation sécuritaire au niveau de l'Est de notre pays, notamment à Goma, impacte les opérateurs économiques du Maniema?
Madame, la situation qui s'est passée à Goma est très alarmante. Comme vous le savez, la ville de Goma, c'est un carrefour des affaires au niveau de l'Est. Tout d'abord, qu'il faut signaler que les transactions à 80% se font entre Kindu et Goma. Alors, comme il y a cette guerre qui frappe la ville de Goma, les vols commerciaux sont suspendus. Il n'y a pas d'évacuation des marchandises ni vers Kindu ou vers Goma. Les opérateurs économiques ayant des stocks très limités ne savent plus comment desservir leur clientèle. Alors, à ce niveau-là, les marchés au niveau local commencent déjà à s'échauffer. Il y a aussi les opérateurs miniers qui évacuent leurs minerais à partir de Goma. Il y a certains qui avaient déjà les stocks à Goma, ils ne savent pas comment exporter vers l'étranger et avoir des devises. Il y a les autres qui sont à Kindu, qui détiennent des minerais au niveau de leurs entrepôts. Ils ne savent pas les évacuer vers Goma. Et à ce niveau aussi, la situation est très catastrophique. On ne sait pas comment faut tourner l'activité économique au niveau de la province du Maniema, madame.
Cela, si on te comprend bien, a des conséquences énormes au niveau du Maniema, ici, la ville de Kindu. C'est que les opérateurs économiques sont asphyxiés.
Effectivement, pas seulement les opérateurs économiques. Ce sont les opérateurs économiques qui sont en train de desservir la ville de Kindu. Et quand eux n'ont pas de marchandises, cela affecte directement la population qui est les consommateurs. Alors, comme solution que nous pouvons envisager, c'est d'appeler les autorités à pouvoir intervenir urgemment pour des routes, aussi pour la voie ferrée.
Qu'est-ce que les opérateurs du Maniema, qu'est-ce qu'ils achètent à partir des Goma? Notamment.
Je peux vous citer les produits comme les produits pharmaceutiques, les produits manufacturés et voire même les produits alimentaires.
Et pendant ce temps, ici, c'est-à-dire il y a des magasins, il y a même des boutiques et pharmacies qui sont presque vides.
D'ailleurs, c'est ce que je devrais vous dire parce que je viens d'avoir un entretien avec un certain nombre de nos membres qui œuvrent dans le secteur commerce général, pharmaceutique et alimentaire. Ils ne savent pas comment desservir la population. Il y a cela, si la situation perdure, ils vont carrément fermer leurs magasins.
Et comment est-ce que vous faites que vous comptez gérer cette situation pour qu'il y ait pas vraiment un impact grave sur la population?
Bon, de notre double mission, d'abord nous sommes une chambre de commerce et syndicat patronal, c'est-à-dire nous allons plaider auprès des autorités politico-administratives de la province et nationale de façon à prendre des mesures qui s'imposent pour qu'on ait quand même d'autres voies alternatives, notamment la réhabilitation de la voie ferrée qui nous relie avec la province de la Chopo. Bishop. Aussi la régularité, on ne peut pas l'oublier, la régularité des vols Kindu-Kinshasa. À cela, ne pas oublier la réhabilitation de la route Kindu-Kisangani. Et nous allons aussi sensibiliser nos membres de bien se comporter pendant ces moments, parce que les consommateurs, ce sont leurs frères. Il ne faut pas que certains profitent pour appliquer des prix illicites, parce que quand ils appliquent ça, ils vont s'exposer aux infractions de l'économie nationale, qui va procéder incessamment à la vérification des structures des prix et les contrôles de stock.
Vous les appelez à la responsabilité pendant qu'eux aussi n'ont pas des marchandises, ils ne se contentent que de ce qu'ils ont.
Oui, madame, ils vont se contacter de ce qu'ils ont. Pour cela, le problème ne va pas se poser, parce que la bonne femme ne livre que ce qu'elle a. C'est pourquoi nous disons que pour cela, qui ont encore des stocks conséquents dans leur... parce que le problème n'a pas frappé tout le monde au même moment, pour ceux-là qui détiennent encore des stocks conséquents, qu'ils puissent bien se comporter comme des patriotes, de pouvoir vendre ces marchandises-là à leurs compatriotes à des prix abordables. Il ne faut pas que certains profitent de la situation de guerre pour commencer à appliquer des prix illicites tels que je vous l'ai dit, madame.
Monsieur Wassoli Lantongue, merci.
À moi de vous remercier, madame Florence.
Le directeur provincial de la FEC Maniema répondait aux questions de Florence Kizalunga. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta. À la mise en onde, Jean-Claude Siala, Mwana Makengo Swalu. Merci d'avoir été des nôtres.